Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, nous marquons la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'ONU avertit que l'universalité de l'Internet est menacée par une triple fracture. Nous reviendrons sur l'avenir du travail des femmes à l'ère de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Et on est aussi à l'approche de la COP25 sur le climat, gros plan sur le dernier rapport sur la réduction des émissions avec le GIEC. L'ONU a marqué ce mercredi la 32e journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien dans un contexte difficile pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Plusieurs responsables des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en faveur de la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. Pascal Sim nous en dit plus.
Il n'y a aucune évolution positive dans la résolution du conflit israélo-palestinien au cours de l'année écoulée et la situation sur le terrain continue de se détériorer, a déploré le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a appelé les Israéliens et les Palestiniens à prendre des mesures pour rétablir la confiance dans la solution des deux États. Il n'y a pas d'alternative viable, c'est une illusion dangereuse de penser que le conflit peut être géré ou contenu à perpétuité, a dit le chef de l'ONU. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Tidjani Mohamed Bande, a de son côté souligné le devoir collectif de résoudre la question palestinienne. Depuis plus de 7 décennies, ce sont les civils qui souffrent le plus de la violence, des assassinats, des incitations, des démolitions, des activités de peuplement illégal, a déploré M. Mohamed Bande, rappelant que 43% de la population palestinienne sont réfugiés et qu'elle est confrontée à des conditions humanitaires extrêmement complexes. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a pour sa part rappelé que la position de son organisation est claire, une paix durable ne peut se fonder que sur le respect des droits et de la dignité de chaque palestinienne et de chaque palestinien.
Le forum sur la gouvernance de l'Internet se déroule cette semaine à Berlin, en Allemagne. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que l'universalité de l'Internet est menacée par une triple fracture, une fracture numérique, une fracture sociale et une fracture politique. Jérôme Bernard nous en dit plus.
30 ans après la chute du mur de Berlin, symbole de la guerre froide et de la division du monde en deux blocs, le chef de l'ONU a exprimé son énorme frustration devant la tendance à créer des murs virtuels sur l'Internet. Selon Antonio Guterres, il existe actuellement dans le monde une profonde fracture numérique, sociale et politique. Aujourd'hui, 3,6 milliards de personnes sur la planète n'ont toujours pas accès à l'Internet à un prix abordable. Dans les 47 pays les moins avancés du monde, plus de 80% de la population n'est toujours pas connectée. L'écart entre les sexes en matière de connectivité continue également de se creuser. Seuls 2% des femmes d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que d'Asie de l'Est et du Pacifique, possèdent un téléphone portable avec accès à l'Internet. Les nouvelles technologies ont contribué à une forte augmentation du nombre de milliardaires au cours des 20 dernières années, mais également mis en lumière le fossé qui sépare les riches et les pauvres. Pour le chef de l'ONU, la fracture de nature politique est la plus dangereuse. Il existe aujourd'hui un risque réel d'une grande fracture des systèmes de commerce, de sécurité et de l'Internet. Dans ce contexte, Antonio Guterres estime que connecter tous les peuples du monde d'ici à 2030 doit être la priorité commune, non seulement pour le développement durable, mais également pour l'égalité des sexes.
L'Union internationale des télécommunications, ONU Femmes et le Mexique ont organisé ce mercredi à l'ONU à New York une table ronde sur l'avenir du travail des femmes à l'ère de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. L'avenue de ces nouvelles façons de travailler vont exiger une forte adaptation, tant pour les hommes que pour les femmes. Quelques 40 millions des 160 millions de femmes actuellement employées vont devoir changer de travail pour 2030, beaucoup pour des postes à compétences accrues, alors qu'elles se retrouvent à un désavantage. Mais cela pourrait représenter une opportunité, comme l'a indiqué en lançant les travaux ce matin le représentant adjoint du Mexique auprès de l'ONU, Juan Sandoval Mendiolea.
Tant les hommes que les femmes doivent posséder des compétences mobiles et des connaissances techniques à l'ère de l'automatisation. Mais les femmes sont confrontées à des obstacles omniprésents. De nouvelles solutions concertées et créatives doivent permettre aux femmes d'aller de l'avant. À cet égard, le panel de haut niveau du secrétaire général sur la coopération numérique a appelé le secteur privé, la société civile, les gouvernements nationaux, les institutions multilatérales et les Nations Unies à adopter des politiques spécifiques spécifique pour soutenir l'inclusion numérique totale et l'égalité numérique des femmes et des groupes traditionnellement marginalisés. Lorsque les femmes et les filles sont autonomisées grâce aux technologies de l'information et de la communication, les familles, les communautés et les économies nationales en bénéficient également. La mise en ligne de 600 millions de femmes et de filles supplémentaires pourrait stimuler le PIB mondial à hauteur de 18 milliards de dollars. Je vous invite donc à réfléchir à la révolution de la requalification nécessaire pour refaçonner l'avenir du travail de la moitié de la population de ce monde qui a la chance d'être des femmes.
À l'approche de la COP25 sur le climat qui doit se tenir à Madrid du 2 au 13 décembre prochain, la publication des rapports sur les émissions et le réchauffement planétaire se multiplie. Tous tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a plus une minute à perdre. Nous sommes sur une trajectoire d'une hausse des températures globales de plus 3 degrés Celsius plutôt que le 1,5 fixé dans l'accord de Paris. Pour mieux comprendre l'ensemble des rapports, on écoute Abdallah Moksit, secrétaire du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est au micro d'Alpha Diallo.
La publication de ce rapport vient à point nommé parce qu'elle permet aux décideurs politiques de connaître l'état de la situation par rapport aux engagements qui ont été avancés dans le cadre du respect de l'accord de Paris. Et effectivement, il ne s'agit pas d'afficher des engagements si on n'a pas d'une façon concrète quels sont les chiffres qui nous donnent l'état où nous sommes par rapport à cet objectif. Ce rapport-là vient compléter un ensemble de rapports, ceux qui viennent du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts du climat, qui vient aussi compléter les rapports venant de l'Organisation météorologique mondiale. Et avec cette panoplie, ce bouquet d'informations, les décideurs politiques, ils ont exactement l'information en temps réel, chiffré, dans l'objectif de les inciter à prendre des ambitions encore plus courageuses s'ils veulent rester dans l'accord de Paris.
Justement, quand on écoute cette conférence de presse, on se dit actuellement on ne doit plus reporter les actions immédiates radicales pour réduire les émissions de CO2, exact?
Oui, exactement. C'est ça l'appel concret parce qu'un calcul simple permet de nous informer que nous sommes dans une trajectoire de 3 degrés, alors que l'accord de Paris vise 1,5 degré. Et là, je crois qu'il n'est plus temps à l'attente. Il faut réagir rapidement et surtout dans les années à venir. Toute action a son importance, toute année a son importance et aussi tout pourcentage ou fraction de température importante. Il faut agir maintenant si on veut essayer dans la limite du respect de l'accord de Paris.
Donc on n'a plus une minute à perdre, mais pour garder un espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, il faudrait réduire les émissions de gaz de 7,6 par an jusqu'en 2030. Un objectif ambitieux mais atteignable.
Ça, c'est exactement le résultat qui vient d'être affiché dans le GAP rapport aujourd'hui. Et c'est pour cela que je crois que c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et les chiffres sont là si on suit les conclusions du rapport aujourd'hui.
L'autre info de ce rapport, c'est que les énergies fossiles ont augmenté de 1,5% par an ces 10 dernières années. Cela nous renseigne quoi sur l'engagement des États?
Ça, je crois que le rapport, il donne des chiffres un peu. Si le rapport vient avec cette information, il faut prendre ces constats comme incitation à essayer de changer de méthode, de changer de planification pour essayer un peu de limiter les impacts négatifs.
Tout de même, pensez-vous qu'il est encore possible de rester sous 2 degrés Celsius et même sous 1,5 degré Celsius?
Un des messages clés du rapport spécial qui a été préparé par le GIEC, c'est le message d'espoir qu'on peut garder. C'est-à-dire qu'il y a toujours la porte de possibilités pour essayer de rester en dessous de 1,5. Ceci dit, il faut prendre toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif.
Dernière question, nous sommes à quelques jours de la COP25 à Madrid. Quel est votre message à tous ces acteurs, à tous les décideurs par rapport à la COP25 de Madrid?
Symboliquement, cette année 2019 est venue avec plusieurs rapports d'évaluation. Là, ça donne un bouquet d'informations qui donne aux décideurs, parce que la COP25, c'est le terrain des négociateurs. Il y a maintenant suffisamment d'informations scientifiques et des observations chiffrées qui les rendent responsables à prendre les actions. Parce qu'ils n'auront plus l'excuse ou bien le prétexte de dire on n'a pas compris. Non, la science est là, les chiffres sont là et ils disent si vous ne faites pas, voilà un peu l'impact négatif et voilà ce qui va compromettre la planète et aussi les générations futures. Et surtout, qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures, les jeunes qui sont en train de lancer tous les appels nécessaires pour agir?
Voilà la fin de ce journal de Nuit Info, à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.